invité ce mercredi est Michel Charras, le sénateur exclu du PS qui a son franc-parler et pressenti pour entrer au Conseil constitutionnel. Avec lui, nous évoquerons l'avenir du PS, les élections régionales, la réforme des collectivités locales. Rendez-vous avec Michel Charras dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20.
France Inter et France 3, partenaires des 17e Victoires de la Musique Classique, présentés par Marie Drucker et Frédéric Lodéon. En direct du Corum de Montpellier, sur France Inter et France 3, le 8 février à 20h35. Retrouvez l'orchestre et les chœurs de l'Opéra National de Montpellier, dirigé par Laurence Foster, avec Hélène Grimaud, Vadim Répine, Alexandre Tarot et les artistes qui ont marqué l'année 2009. Les Victoires de la Musique Classique, avec France Inter, France 3 et le CIC, et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
15h04 sur France Inter, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, c'est Philippe de Rumilly, ça va? Et je viens d'entendre l'histoire de ces deux sœurs jumelles marocaines de Clermont-Ferrand. Ces deux gamines, elles ont été recueillies par leur tante à Clermont-Ferrand, qui était la seule à bien vouloir les accepter et à s'en occuper. Et là, ben, maintenant, elles ont 18 ans. Et le préfet a sorti des arguments administrato-jurido-fachos pour justifier de l'expulsion de celle qu'il a sous la main. Et je trouve ça scandaleux. J'ai plus l'impression de vivre en France. Je suis ulcéré. Je n'arrive pas à comprendre que ça puisse arriver en France, quoi, un truc comme ça. Qu'est-ce que ces deux gamines qui ont 18 ans, qui étaient en formation pour apprendre un métier, en quoi elles représentent une gêne, un danger, un risque pour l'identité nationale de M. Besson. Voilà, j'ai pas de mots pour dire mon dégoût de ce ministère de la honte.
Allô ?
Oui, allô, oui. Bonjour, Sanima ?
Bonjour, oui.
Là, vous êtes toujours dans le centre de rétention, hein ?
Oui, oui, toujours. Bah là, ça fait 13 jours. C'est demain que je pars.
Ils on vous a donné une date d'expulsion ?
Pour le 4 à 9h. Et je sors de centre à 7h, à l'aéroport. Bah, je pense à demain. Je sais même pas quoi faire.
Vous avez chez qui aller au Maroc ?
Non, pas du tout. Je pensais que je vais pas retourner là-bas. Je vais pas retourner.
Comment vous allez faire financièrement ? Est-ce que vous avez un peu d'argent pour demain, pour...
J'ai juste un petit d'argent quand je travaillais. Ma tante, il fallait me les ramener. Il fallait m'envoyer un peu aussi quand je vais là-bas. Donc c'est juste pour où je vais dormir, juste pour acheter à manger. Pas quoi faire demain.
Est-ce que vous en avez parlé, ça, aux autorités françaises, que vous saviez pas où dormir en arrivant au Maroc ?
Je l'ai demandé tout à l'heure. J'ai dit, quand je vais au Maroc, comment ça va se passer ? On me dit, on sait pas. Je dis, mais c'est pas normal, il faut m'envoyer comme ça. Venez chez moi le matin pour me chercher un foyer de 5 pieds, je connais personne. Et quand je lui demande des questions, vous me dites que ça n'allait pas. C'est pas normal. Moi, je veux juste parler avec Salma et moi. Je veux juste apprendre s'il le fait.
Vous voulez parler avec votre sœur ?
Ouais. Je veux elle et ma tante.
Vous savez qu'elle ?
Oui.
Vous ne pourrez pas la voir avant de partir, votre sœur ?
Je sais pas où elle est.
Vous pensez qu'elle s'est cachée pour éviter l'arrestation, c'est ça, hein ?
Oui. En plus, elle est malade.
En plus, elle est malade, votre sœur jumelle ?
Elle perd la tête. Elle n'arrive pas à marcher, elle n'arrive pas à parler. Déjà, elle me manque. Et je ne sais pas comment je fais là-bas, comment elle va me manquer.
Et dans le centre, là, j'entends du bruit. Comment ça se passe ?
Bah, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde ?
Parce que ici, c'est un prison. Franchement, c'est un prison.
C'est une prison ? Là, vous allez faire quoi aujourd'hui ?
Bah, aujourd'hui, je vais préparer ma valise. Je vais mettre tous mes affaires dans la valise. J'ai pas envie de retourner. Là-bas, j'ai des devoirs à faire aussi. Je vais les faire et quand je fais mes devoirs, je sais pas quoi faire.
Vous avez vos devoirs à faire en France ?
Oui, oui. Mes profs, ils m'ont envoyé des devoirs. J'ai l'été, quand je les finis, je les fax. Après, je vais suivre mes cours. Après, je reste dans ma chambre, je regarde la télé. Mais que ça. Je vais regarder les manifs qui sont faits les profs sur France 3.
Vous allez regarder les manifs que les profs font ?
Oui, sur France 3.
Pour vous souvenir ?
Oui, regarder un peu, pour avoir des souvenirs.
Pour avoir des souvenirs ?
Oui, je voir les photos de Salma aussi, ils m'ont ramené les photos de Salma.
Ils vous ont ramené les photos de votre sœur ?
Oui. Merci.
Je vous en prie.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
Oui, bonjour, Marie Gallego. On est encore et toujours en train de défendre Salima et Salma. Nous sommes devant les marches de la préfecture à Clermont-Ferrand, donc il est mardi 18h. Rassemblement demain, 18h également, parce que Salima va être exécutée jeudi à 9h du matin. Il y a énormément de monde malgré le froid, d'autant plus que ce matin un autre élève a été arrêté, mais je vais le dire avec beaucoup d'ironie, grâce à Sazal et Foucault qui était dans un lycée professionnel aujourd'hui à Clermont-Ferrand, le préfet a ordonné sa libération immédiate donc à ce jeune qui est scolarisé dans un lycée professionnel. Bon, nous sommes toujours indignés, fatigués de voir toutes ces horreurs qui se passent en France et on a parfois honte.
Moi, je voulais vous dire que franchement, ça craint pour tout ce qui se passe. Et franchement, faut les soutenir. Et faut pas qu'elles partent. Alors, criez tous, Salima,
allez ! Voilà, il y a quand même du monde et ça fait chaud au cœur. Merci à vous tous.
Bon. Parlons peu, mais parlons bien. Je suis censé, là, annoncer le repère à la base, si j'y suis, de ce soir, mercredi 3 février 2010, à 19h, au Poulailler, place du 14 juillet, à Bègles. Donc, je l'annonce. Thème de la soirée, les experts. Vous connaissez tous ces experts qui parlent, qui sont convoqués constamment par les médias. Quel est leur rôle? Qui sont-ils? Influencent-ils nos représentations concernant les grandes questions qui nous préoccupent? Et qui sont des problèmes de société. D'ailleurs, là, la réponse est dans la question. Donc, voilà, il y a une réunion ce soir sur les experts. Alors, c'est très bien, hein, je suis d'accord, c'est bien. J'aime beaucoup retrouver les gens au poulailler. Mais je vais te dire, Daniel, ça me suffit plus, moi. Ça me suffit plus parce que c'est comme France Inter qui fait une journée contre la garde à vue, lundi. Seulement, la garde à vue, elle continue. Alors, si les repères, ça consiste à se réunir pour discuter de ce qui va pas, mais que ça continue à pas aller... Ça peut plus suffire. Pour moi, je vous le dis clairement, hein, la priorité, c'est de mettre un terme aux activités de ceux qui nous gouvernent et de frapper de nullité toutes les décisions qu'ils prennent parce qu'elles sont profondément antidémocratiques. La légitimité des urnes ne suffit pas. On ne peut pas conduire une politique qui va contre les principes mêmes de la démocratie. Alors se réunir, c'est très bien, mais ce à quoi j'appelle surtout... C'est à l'insurrection, à la désobéissance, par exemple, au refus de se rendre aux convocations de la police. Par exemple, un mec qui reçoit une convocation au tribunal, il y va. Non, on va pas au tribunal, c'est comme recevoir une convocation de la police de Vichy, on n'y va pas, sous prétexte que c'est la police. On se casse, ou alors on s'oppose si on en a les moyens. Donc il faut penser à se donner les moyens, maintenant. Voilà, c'est mon idée, Daniel. J'espère que ça te fait pas peur.
Ah, Mermet, t'es trop fort. Faire une émission sur l'auto-entrepreneur et toute la face cachée, alors qu'on nous attoque depuis une semaine sur la radio de France Inter pour la pub des 300 000 auto-entrepreneurs. Ah non, c'est trop génial et j'ai adoré.
Salut à tous. Message aux AMG de Limoges et des environs. Le Woodstock Boogie Bar où nous nous réunissions depuis quelques années a fermé en janvier, mais le repère continue. Le prochain, ce sera demain, mercredi 3, au bar Le Gousset, 41 rue des Combes. Michel viendra nous y parler de ce qui se passe à l'abattoir de Bessines-sur-Gartempe. Cet abattoir municipal est en train d'être vendu pour le tiers de sa valeur à un investisseur privé. Quid des emplois, etc. Pour en savoir davantage, rendez-vous mercredi au Gousset à partir de 18h30. Ciao.
Merci pour tous ces messages. C'est de très loin que nous suivons cette mobilisation pour Salima, de très loin, puisque c'est de San Salvador que je vous parle. Mais c'est quand même intéressant cette histoire. Ce qui est très intéressant, c'est celui qui porte le chapeau. Et celui qui porte le chapeau, c'est Éric Besson. Et Éric Besson, en France, est une figure tout à fait familière. C'est l'homme de gauche qui passe à droite. Et ça, c'est un parcours presque normal chez nous. Qu'est-ce qu'un homme de gauche ? C'est un futur renégat. Eh bien, voilà ici deux exemples qui vont dans le sens inverse. Au Honduras, le président du Honduras, Manuel Zelaya, au départ un conservateur et même un libéral, qui peu à peu, dans l'exercice de son mandat, va glisser à gauche, c'est-à-dire qu'il va faire du social, il va augmenter considérablement le salaire minimum, il va faire des progrès dans la distribution des terres, dans la santé, dans tout un tas de domaines, et il va devenir un homme tellement subversif qu'il va falloir le destituer par un coup d'État. Aujourd'hui, il est hors service. Un autre exemple, ici même, au Salvador, une très grande figure, non seulement du Salvador, mais de toute l'Amérique latine, c'est Monseigneur Romero. Monseigneur Romero, c'est un évêque. Au départ, c'est un homme tout à fait conservateur, l'évêque des riches, l'évêque de la bourgeoisie, de l'oligarchie locale. Et voilà que, peu à peu, au cours lui aussi de l'exercice de sa fonction, va devenir l'évêque des pauvres. Mais beaucoup plus encore, il va devenir une des grandes figures de la théologie de la libération, alors que le pays entre en guerre civile, si bien qu'il va falloir s'en débarrasser. Il sera assassiné en 1980, il y a 30 ans, laissant la figure d'un homme, on peut dire véritablement un homme de gauche. Voilà. Deux exemples pour peut-être se consoler de ces figures si familières dans notre beau pays. Aujourd'hui, on part dans l'autre sens, dans la basse Sichuan, on retourne dans le grand nord russe. Gloire à ceux qui ont vaincu le cercle polaire. On était allé là-bas en 2005, dans cette ville étonnante de Vorkuta, célèbre goulag de l'archipel, et nous avions rencontré avec Aude Merlin des personnages tout à fait étonnants comme Yuri, qu'on va retrouver aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Sichuan au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici Grenoble, le repère de la basse Sichuan sera ouvert jeudi 4 à 18h30. Venez nombreux, surtout que le sujet, il n'y en a pas. Le repère cherche ses repères. Donc, si vous avez envie de vous réunir, il y a un hôte, c'est Pierre, il vous attend. Et il espère que l'année va recommencer avec un peu plus d'activité. Alors, jeudi, 18h30, La Bonne Heure, rue Alsace-Lorraine. Bye bye.
Bonjour. Vu les problèmes électoraux fréquents et variés dans le Roussillon, la région a besoin d'un candidat qui incarne le droit, la morale et la justice. Monsieur de Villepin est le seul qui à la fois représente ses valeurs et est la carrure d'un président digne et intègre. Ce sera le thème du prochain Café Repère de Perpignan, qui lance une enquête sur les pratiques électorales et politiciennes dans le Roussillon, le Ribéral, le Conflent et même au-delà. Venez nous apporter votre témoignage tous les premiers jeudis du mois à partir de 18h30 au Lisboa, place Rigaud. À très bientôt.
Bonjour AMG de la Côte d'Azur. Ce soir, comme tous les premiers mercredis du mois, Café Repère à Grasse à 18h au Cybermouton. On parlera de décroissance et de décroissance festive. Allez, merci, au revoir, bonne journée.
Moi, j'avais le K63.
Non. Вещи прекрасные, конечно.
Их нигде не найдешь. Тебе трудно
не поют они. Поют трендобаба, трендодец, похватились, хлеба нет. Ложись баба на кровать, буду хлеба добывать. Вот это они поют.
Maintenant voilà ce qu'ils chantent.
Барахло
ils chantent вот, de, да. Vraiment des trucs. C'est n'importe quoi ce qu'ils chantent. Là.
Это же суд.
C'était un tribunal.
Дает штраф за то, что ты провинился, верно?
Et le tribunal à l'époque, tu étais forcément coupable.
Ну, слышно неплохо, да?
J'entendais bien.
Октябрь Зеленый пионер комсомола.
Октябрь, пивник.
Конечно, был бы членом партии, если бы не посадили.
Mais si on m'avait pas mis en camp, bien sûr que j'aurais été au parti, évidemment.
Pourquoi tu me cherches un prétexte?
Время московское.
Мы знаем, кто. Ярослав Паштан, посол Чешской Республики в Москве.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin. Là-bas, si j'y suis, la baraque la plus gaie du camp.
Flight number 2, arriving from New York.
Combien il y avait de cimetières? Il fallait bien enterrer les détenus. Là où il y avait un camp, il y avait un cimetière. Comment on pouvait enterrer les détenus?
D'abord, il n'y
avait pas de cercueil. Jusqu'en 1950, avant l'arrivée des troupes du NKVD, il n'y avait pas de cercueil. On les enterrait nus, sans cercueil.
On les mettait
sous la neige en hiver. Et après, quand ça fondait,
la
neige fondait, après, on pouvait faire une petite tombe, on mettait le corps sous la mousse.
Et
après, on mettait un petit poteau. Et une petite planchette en haut du poteau.
Маленькая. Et там номер.
Et là, on mettait le numéro.
Там номер.
Un numéro.
Его.
Le numéro du détenu.
Ведь номера были у всех.
Parce que tous les détenus avaient des numéros, les travailleurs forcés, les détenus.
У меня был К-63.
Moi, j'avais le К-63.
K63, Yuri Yakovlev. Il est 1h du matin et c'est une nuit blanche. On est au mois de mai, on est à Vorkuta. Gloire à ceux qui ont vaincu le cercle polaire. C'est en lettres géantes au-dessus d'un immeuble en face de nous. Nuit blanche parce que, ben voilà, on est au nord du cercle polaire. Ça sent la peinture chez Yuri. Et il y a un œillet rouge sur la table. Ça sent la peinture parce que la municipalité avait promis de repeindre à temps les appartements des vétérans pour l'anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Mais voilà, ça a traîné, alors c'est pas tout à fait fini. Voilà pourquoi ça sent un peu la peinture. Mais l'œillet rouge est arrivé avec la carte, avec les vœux du président. Et Yuri a remis son uniforme de marin qu'il était pendant la Grande Guerre patriotique, qu'il a passé en partie dans sa ville natale, à Leningrad, et puis ensuite à Stalingrad. Et il est là, on entend de temps en temps tinter les médailles sur sa poitrine, et il est heureux. Il est heureux parce qu'on est là, avec Aude Merlin, avec un ami de Vorkuta, Sacha, et moi, et on est venu lui demander de nous raconter sa vie. Et sa vie, c'est à peu près l'histoire du siècle dernier, de ce côté-là du monde, du côté de l'URSS, du côté de ce qui est aujourd'hui la Russie. Cet homme qui est là, derrière cet œillet, dans cette odeur de peinture, et avec qui on va passer une bonne partie de la nuit à boire et à manger et à chanter, vous allez voir. Eh bien, lui seul, il est une mémoire qui s'oublie, une mémoire qui s'efface, celle du goulag, celle des camps. Un photographe polonais a dit « Cette mémoire-là est cachée dans la poche du temps ». Et c'est vrai que, peu à peu, tout s'efface, des traces du goulag, des goulags, de cet archipel qui s'étendait à travers toute l'URSS. Parce que c'était des baraques, et que la neige et le vent les ont emportés, parce que on a voulu faire disparaître évidemment ces traces, parce que personne n'est trop fier de ça au moment où le sentiment national et le sentiment historique est revenu dans l'esprit et le cœur des Russes. Eh bien, c'est une histoire dont on n'est plus très fier. Et pourtant, ce qui s'est passé là est encore présent, sinon matériellement, mais évidemment dans le cœur et dans la mémoire et dans l'âme de ces hommes-là et dans l'âme de cet homme-là avec qui nous allons passer 7 heures jusqu'à 18 heures là-bas si j'y suis, dans la baraque la plus gaie du camp.
Ah, c'est un endroit incroyable quand même. C'est un paysage baigné dans une lumière splendide. Le soleil va se coucher très 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 lentement maintenant. Et la nuit restera claire, hein. C'est presque une nuit blanche. Pour nos amis ici, c'est le printemps quasiment, hein. C'est le début du dégel, on s'émeut d'un bourgeon qu'on croit voir au bout d'une branche. Mais c'est aussi un spectacle absolument désolé. Là, on a un monument assez bizarre, avec un bouquet de fleurs posé à la base, et qui est une énorme caillasse, une grosse pierraille, avec un gros morceau de barbelé. C'est pas d'une très très grande beauté, mais ça va très très bien avec l'ensemble du paysage. Ça veut dire quoi ça, Sacha, ce monument?
Здесь, на этом месте, предполагалось построить монумент.
On avait prévu d'ériger ici un monument mémorial aux victimes de la répression.
Tiens, viens, on va demander aux gens si ça leur dit quelque chose, ce monument. Dites-nous ce que c'est ça pour vous, que ça représente pour vous.
Что это для вас вот представляет этот памятник?
Прошлое нашей страны.
C'est le passé de notre pays. La terreur et le passé. Merci.
La terreur et le passé. La terreur et le passé. Voilà ce que ces passants nous ont dit devant ce petit monument qui est là et qu'effectivement personne ne remarque et auquel personne ne tient tellement, sauf notre ami Sacha, parce que Sacha, il s'occupe de Mémorial, qui est une association qui, à travers la Russie, ben, comme son nom le suggère, essaye de faire vivre la mémoire. Je sais pas comment on dit loin de tout en russe, mais moi, je pourrais tout à fait le traduire par Vorkuta. Vorkuta, c'est loin de tout. C'est tout au nord de l'Oural, je le disais, à 200 kilomètres au nord du cercle polaire, et on se demande vraiment comment cette ville est arrivée là. Comment ça s'est passé, étant donné qu'il n'y a qu'un cordon ombilical très mince qui relie cette ville au reste du monde, c'est une voie ferrée. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est une de ces villes. Il y en a d'autres dans le Grand Nord russe, ensuite au nord de la Sibérie, qui sont ces villes qui ont été construites par les zecs, ce qu'on appelle les zecs, c'est-à-dire les détenus, tous ceux qui sont passés par le goulag. Et cette ville est née littéralement de rien. Il n'y avait rien. Et cette ville a été construite par les détenus, par les prisonniers du goulag, à partir de 1930-1931, par dizaines de milliers, ils ont été déportés dans cette ville. On estime à 400 000, 500 000 ceux qui sont passés par cette ville. Ils ont été ensuite rejoints par des civils, par des volontaires qui étaient bien payés pour venir travailler dans ce climat extrêmement difficile. On s'est renseigné cette nuit à Vorkuta, il faisait moins 26 degrés et ça s'est un peu radouci dans la journée. Actuellement, il doit y avoir 4 ou 5 heures de jour, c'est dire la dureté du climat.
Sacha, là en contrebas, je vois des immeubles d'habitation qui m'ont l'air... Qui m'ont l'air désaffectés, qui m'ont l'air inhabités maintenant. Hein? C'est en ruine tout ça.
Это все брошено уже целый год уже тут никто не живет.
Oui, ça fait un an qu'il y a plus personne qui vit là-bas.
Les gens sont partis pourquoi?
Потому что там нет работы, все прекратилось.
Parce qu'il n'y a pas de travail, tout ça a été fermé.
C'est une ville en ruine, hein?
Da, 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 da. Un pakinuté, pakinuté, prosto.
Oui, elle est abandonnée.
Alors, qu'est-ce qu'on voit en dessous de nous? Ça, c'est la, le fleuve.
Река Воркута, которая дала название всему этому местности, всей этой городу.
C'est le fleuve Воркута qui a donné son nom à tout ici, à la ville.
Она существовала. По ней добирались первые грузы, первые люди доходили именно по этой реке, и именно здесь на этом месте был обнаружен первый уголь.
Parce que c'est en naviguant sur la Воркута que les premiers qui ont découvert le charbon sont venus, ils ont découvert des gisements de charbon ici.
C'est à quelle époque ça?
Это в 30-м году.
C'était en 1930.
Voilà. Et jusque-là, il n'y avait rien ici.
Нет, нет, нет. Это место было совершенно пустое, как вот окружающая тундра.
Non, non, c'était это... vide, c'était nu, comme la tundra qui nous entoure.
Это не заселенная территория,
c'était
никак не использовалась.
C'était pas peuplé, c'était exploité par personne.
Donc on a trouvé du charbon, et aussitôt, l'idée des soviétiques, ça a été installons des camps avec des détenus, avec des zecs, qui vont extraire le charbon, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont extrait le charbon, et ils ont construit cette ville de Воркута.
Значит, вот представляете, в 31-м году была заложена первая шахта, никакого еще жилья не было построено, были только времянки, палатки, и вот здесь вот прямо в берегу были выкопаны землянки, вот так вот, на той стороне, прямо в берегу.
Vous imaginez, en 30-31, la première installation de l'autre côté, sans logement. Donc les travailleurs, les détenus, vivaient dans des tranchées, dans des sortes d'abris au bord de la rivière.
А, первые, вот, кто сюда приходили, они все умирали, все оставались здесь.
Les premiers qui sont arrivés travailler ici, ils sont tous morts ici, ils sont morts très vite.
Не было продуктов, не было жилья.
Parce qu'il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de logement.
Ну даже сейчас, вот мое место, вы представляете, что это холодно довольно.
Donc imaginez, déjà là il fait froid.
Хомеры.
Il fait froid, mais ça n'empêche que c'est la fête à ce jour-là à Воркута pour le 60e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Évidemment, c'est un très grand moment pour l'ex-URSS, pour la Russie. Et ce jour-là, c'est la fête des mineurs, puisque Воркута est une ville de mines. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ces détenus, ces zecs avaient été envoyés dans ces conditions atroces dans cette partie de la, du nord de la Russie. Et la ville a prospéré, la ville s'est développée, on y a construit des bâtiments énormes de style stalinien, et cette ville a été une des grandes images, une des grandes références de l'ère stalinienne. Et puis ça a tenu parce que c'était très prestigieux d'être envoyé là-bas, on y gagnait pas mal d'argent, je parle de la période qui a suivi évidemment la fin du camp de Воркута dans les années 60, et où les civils, disons, ont rejoint les détenus et les anciens détenus. La ville a connu un développement et puis depuis quelques années, depuis le milieu des années 80, la ville connaît un déclin puisque le charbon, l'extraction du charbon connaît aussi un déclin. Alors bon, on essaye de partir de cette ville, on essaye d'aller ailleurs, et ceux qui restent sont ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs ou qui espèrent encore que l'exploitation du charbon pourrait reprendre. Donc personne n'est ici de son plein gré, disons. Hein. Il y a, c'est un peu ceux qui ont été astreints de rester, c'est un peu ceux qui y sont passés, qui y passent, qui y séjournent, mais c'est toujours pour des raisons d'intérêt. Mais c'est pas véritablement une patrie au sens que ce mot peut avoir pour les Russes, hein, par exemple. Alors... Eh bien, Yuri, qu'on va trouver, lui, il a vécu tout ça, il a vécu ici, il va nous raconter sa vie, il nous attend, et vraiment, Yuri a tout son temps.
Je suis né en 1921, le 7 février.
Où ça ?
Я родился в Ленинграде.
Je suis né à Ленинград.
А так в Ленинграде и вырос.
Et j'ai grandi à Ленинград.
И, значит, там в этом и учился.
Et j'ai fait mes études à Ленинград.
И воевал.
Et j'ai combattu à Leningrad.
Да.
Oui.
Один брат погиб при снятии блокады.
Un de mes frères est mort dans le blocus.
При снятии блокады с Ленинграда в 43-м году.
Au moment de la prise de Leningrad en 43.
Да. На Пулковских высотах.
Quand le blocus a sauté, en fait.
Он был командир запаса танковых войск.
Lui, il était commandant d'un régiment de tanks de réserve.
Et во время боя он высунулся и вылез из этого из люка танка. Его прошили.
Au moment des combats, il a voulu regarder puisqu'il regardait par la lucarne du tank. Et il est mort. Il a reçu un éclat. Il est mort.
Его жена была в Ленинграде.
Et sa femme était à Leningrad dans le blocus.
И ей привезли его прошитую гимнастерку.
Et on lui a rapporté la vareuse de son mari défunt ainsi que sa carte du parti à sa veuve. Et j'ai une photo, c'est trois jours avant sa mort. Trois jours avant sa mort. Il s'était fait photographier avec ses compagnons de régiment.
Combien de millions de Russes ont ce genre d'histoire comme mémoire familiale ou personnelle? C'est inimaginable. Ce qu'on vient d'entendre là est une histoire ordinaire pour cette génération, mais évidemment pour les générations qui viennent. Et pourtant, je le disais, cette mémoire, on n'en est pas très fier, comme si il fallait systématiquement toujours faire du passé table rase. Et pourtant, évidemment, c'est là ce jour-là, ce soir-là, même si le soir ne se décide pas à tomber.
Я окончил 8 классов всего.
J'ai
война.
Mes 8 années d'école et puis après la guerre a commencé.
Я, значит, это было 22 июня.
Le 22 juin.
Нас подняли в 4 часа по тревоге.
À 4 heures du matin, on nous réveille en alerte, en urgence.
Весь учебный отряд.
Tout le détachement d'étudiants.
О войне узнали.
C'est là qu'on a appris que la guerre avait commencé.
22 juin 1941.
26 июня.
Le 26 juin.
Меня списали на крейсер Киров.
On m'a mis sur le croiseur Kirov.
Да. И я ушел в Таллин.
Et je suis allé à Tallinn.
В Эстонию.
En Estonie.
И в Эстонии.
Et en Estonie.
Я был списан в отряд.
J'ai été transféré dans un.
Противовоздушной обороны.
Dans le détachement de défense antiaérienne.
Морские. Батареи были,
морские. C'était une batterie de la marine, да. Batterie navale.
Вот. И я участвовал в боях под Таллином в Пирите. Там есть такое местечко Пирита.
J'ai participé au combat de Pirita, вот, c'est près de Tallinn.
Да. И я там участвовал в боях.
Là, j'ai combattu.
У меня до сих пор есть форма, между
прочим. J'ai encore mon uniforme, d'ailleurs, encore aujourd'hui.
Да.
Oui, oui, oui.
С наградами.
Avec les décorations.
Там их много.
Il y en a beaucoup.
Попадаю к своим. Прихожу к своим.
Et donc j'arrive vers les miens, les soviétiques.
Нас формируют и отправляют под Сталинград.
Et on nous recrute, on nous forme et on nous envoie vers Сталинград.
И нас там уже командировали и все.
On nous a équipés.
Под Сталинградом. Должны были оружие выдать.
On devait nous donner des armes.
Там бы, конечно, выжить, это... 10-15%. Там было страшные
Ceux
бои в то время.
Ceux qui survivaient, c'était seulement 10-15%, parce que ces combats-là étaient terribles.
Лето 42-го года.
C'était en été 42.
Там были бои страшенные.
Il y avait des combats absolument horribles.
Ну, еще бы день мы нас перебросили в Сталинград.
Après, on nous a transférés à Stalingrad, à travers la Volga.
Там бы мы начали борьбу.
Et là, on devait commencer à se battre.
Et Youri est fait prisonnier par l'armée allemande et ça va donner un prétexte pour l'envoyer en camp, en goulag.
d'être prisonnier des Allemands, il va devenir prisonnier dans son propre pays. Pourquoi ? Parce que Staline considère que ces prisonniers-là sont des déserteurs, ils avaient qu'à se battre, il fallait se battre jusqu'au bout, pas un pas en arrière, avait-il dit, et ceux qui étaient faits prisonniers étaient des lâches. Ça a été un prétexte pour envoyer quelques centaines de milliers d'hommes, parfois aussi de femmes, dans les camps. Il faut rappeler un peu rapidement l'histoire du goulag qui commence en 1929-1930. On peut la faire commencer avant. Il y a eu des camps auparavant, dès les lendemains de la révolution d'octobre. Très rapidement, il y a eu une répression et des camps. Mais c'était après tout que continuait une vieille coutume tsariste, sans remonter à la construction de Saint-Pétersbourg même, qui avait été faite par des détenus un peu de la même façon. Donc, 1929, là, les choses s'organisent systématiquement dans trois buts. L'un, évidemment, c'est d'éliminer les adversaires ou les dissidents au régime. Il y a une deuxième raison, c'est de contrôler et d'asservir la population, évidemment. Et puis, troisième prétexte, ou troisième raison, c'est de produire et d'extraire du bois, du charbon, comme à Vorkuta, ou de travailler sur des canaux, la construction de canaux, de voies ferrées, de centrales hydroélectriques. Et ce sera des millions d'hommes qui travailleront sur tous ces chantiers dans cet archipel du Goulag qui s'étend à travers tout l'Empire jusqu'au fin fond de la Sibérie, jusqu'au Grand Nord. En 1930, il y a 140 000 détenus, 300 000 en 1932, 1 million en 1935, presque 2 millions en 1941. Et au moment de la victoire, en 1945, c'est 2,5 millions de détenus qui sont dans ce goulag. Lors de la mort de Staline, en 1953, 2,8 millions hommes sont dans ces camps. On se souvient, des ouvrages évidemment de Solzhenitsyn et de Chalamov qui ont raconté ce qu'ont été ces camps. Inutiles de dramatiser et de faire de l'indignation, rétrospective, mais c'est quand même pour cette raison, donc pour avoir été fait prisonnier par l'armée allemande, que notre ami Youri, 83 ans aujourd'hui, a été considéré comme un ennemi du peuple et envoyé à Vorkuta pour 10 ans.
Et subitement arrive l'ordre de Staline qui dit que ceux qui ont été faits prisonniers sous l'occupant doivent passer au contrôle d'État.
Et nous, qui était prisonniers,
donc tous ceux qui avaient été en prison, fait prisonniers d'hier, on a été mis dans un wagon à bestiaux,
et on a
été envoyé au camp de contrôle du NKVD.
Donc
je me trouve dans ce camp pendant 6 mois. Le juge d'instruction, il me donnait des missions. Je dis, mais quoi, quelle mission? Moi, je suis venu pour combattre. Il dit, non, toi, tu es un traître à la patrie.
Fasciste.
Tu t'es vendu aux fascistes.
Ну хорошо.
Je dis bon.
Где это видно, что я продался фашистам?
Alors prouvez-moi que je me suis vendu aux fascistes. À quoi vous voyez ça?
Ну и короче говоря.
Et finalement.
Он говорит, все равно я тебя фашист сделаю.
Il a dit, de toute façon.
Посажу тебя на 10 лет.
Je ferai de toi un fasciste et je te mets en camp pour 10 ans.
Да, посажу тебя на 10 лет.
Je te condamne à 10 ans.
Et vous vous souvenez de Vorkuta quand vous êtes arrivé? À quoi ressemblait la ville?
Да что?
À
quoi? C'était
un tout petit village.
Здесь сплошные лагеря были.
C'était des camps. Des camps entiers, que des camps. De détenus.
Вольнонаемных были единицы всего.
Il y avait très peu de travailleurs volontaires qui étaient venus sur contrat.
Солдаты.
Et puis les soldats. Et les soldats qui gardaient les camps. Voilà.
Et tout le monde travaillait à la mine.
Dans la mine aussi, en surface, et aussi à la construction, dans les usines. Partout où on pouvait travailler, on travaillait. Les femmes travaillaient aussi dans des ateliers. Les femmes détenues.
Si je me trompe pas,
la mine numéro 2 était une mine de femmes. C'était des femmes qui travaillaient là-bas. Quand j'ai été libéré,
документов не давали нам.
On ne donnait nos papiers. Ceux qui avaient été jugés par une commission spéciale et déclarés ennemis du peuple, ennemis de la patrie, n'avaient pas de
papier.
On donnait juste un petit papier.
Ni паспорт, ничего нам.
Pas de passeport, pas de papier d'identité, rien.
И на этой бумаге написано.
Et il y avait écrit sur ce papier, donc
Яковлев Юрий Михайлович
a été libéré de tel camp et doit vivre dans la ville de Vorkuta.
Ah, on a voulu vous garder.
Pas de sortie.
Chaque semaine, on allait à la police
et
et on devait pointer, dire qu'on était vivant. Une fois par semaine, obligatoirement.
En 1957, donc,
ma faute a été annulée par
amnistie.
Voilà la fameuse amnistie que c'est. Que ces zecs ont attendu parfois jusqu'au cours des années 80. Certains ont été amnistiés assez rapidement après 1956, mais beaucoup ont attendu très très longtemps cette fameuse amnistie. Et puis beaucoup, après leur libération, ont été assignés à résidence, si on peut dire. Donc ça a été des libérations tout à fait limitées, mais pour beaucoup, ils n'avaient plus aucun endroit où aller après des années de goulag. C'est l'histoire de Yuri.
Et вот, значит, 50, после освобождения,
57 году,
приехала ко мне мама.
Ma mère qui est venue me voir de Leningrad.
Вот, она, между прочим, она всю блокаду пробыла в Ленинграде.
Et elle, d'ailleurs, elle a passé tout le blocus de Leningrad dans le blocus.
Когда ей предложили эвакуироваться с Ленинграда, в Россию, в среднюю полосу. Она говорит, я родилась, она коренная ленинградка, я родилась в Ленинграде.
Quand on lui a proposé d'être évacuée du blocus, elle a dit, moi je suis née à Leningrad, j'ai грandi à Leningrad, je mourrai à Leningrad. Elle a refusé.
Ну, значит, ну она приехала, побыла здесь.
Elle est venue me voir ici.
Первый раз через 18 лет.
La première fois, c'était 18 ans après.
Как она старенькая, все стало.
Это давняя вьяя,
совсем уже худая такая,
измождённая.
Прожить эти блокадные Ленинград.
Elle avait vécu. Comment vous pouvez imaginer
voyeval,
qu'on puisse vivre dans le blocus de Ленинград? Moi, j'ai combattu. Voyeval,
я видел, что делалось с людьми.
J'ai vu ce qu'on faisait avec les gens dans le blocus de Ленинград.
Умирали.
Les gens mouraient.
On dit qu'il y a eu du cannibalisme pendant le blocus.
Было.
Oui.
Было.
Oui, il y en a eu.
И расстрелы были за это.
Et on fusillait pour ça.
Было людоедство.
Oui, il y a eu du cannibalisme.
Да. С командой-то с этой, они быстро набирают эти истощенные, быстро набирают это все. И их берут.
C'était, il y en avait qui étaient, да, qui mouraient d'épuisement.
Оздоровительные команды, так называемые. Вохров, пару вохровцев.
Et
везут на кладбище, там кладбище.
Et on emmenait les corps от Ишиги, au cimetière.
На седьмой там Чаегас,
c'est le cimetière numéro 7.
На седьмой, эти как их, сани широкие, такие развалины называются, крестьянские сани.
Avec des traîneaux, de paysans.
А сверху этими там старыми какими-нибудь тряпками
или одеялами накроют.
И запрягали заключенных, и, а человека четыре сзади толкали.
On attelait des détenus, quatre détenus.
И сзади толкали.
Et ils tiraient le traîneau derrière.
Заключенные.
C'était des détenus.
Yuri, il y a une chose qui m'intrigue là. Il y a une grande photo qui vous représente derrière un micro. Qu'est-ce que vous faites là?
Je chante.
Et vous chantez quoi?
Des vieilles romances tziganes, essentiellement.
Mais vous allez nous chanter une romance
tzigane. Ah, vous nam spoviti tziganska romance.
Я могу исполнить.
Je peux vous chanter.
Есть такой романс.
Il y a une romance.
Когда в предчувствии разлуки? Когда в предчувствии разлуки?
Quand a lieu la séparation?
Да. Так вот, значит, это старинный роман.
C'est une très vieille romance.
Мама же пела прекрасно.
Maman la chantait très bien.
Я был маленьким совсем еще. Вот она после спектакля придет домой.
Et elle revenait du spectacle à la maison.
Она в опере пела в Ленинграде.
Parce qu'elle chantait à l'opéra à Ленинград.
Ну и меня...
Après, elle me relevait.
Сажает рядышком.
Et elle m'asseyait à côté d'elle.
Ну и вот поет.
Et elle se mettait à chanter.
Разъянув рот, слушаю.
Et moi, j'écoutais.
Когда в предчувствии разлуки мне нежно голос воззвучал, когда смеялся я ваши руки в своих руках отогревал, когда дорога светлой даю меня манила из глуши, и я вашей тайной печалью гордился в глубине души.
C'est quand la séparation arrive, j'ai envie d'avoir tes mains dans les miennes, mais mes mains sont froides. Tu as pris la route, je t'attends. Quand arrive la séparation, j'ai le cœur qui se renverse. Quand arrive la séparation.
Et des chansons, il y en a d'autres. Yuri, il a été à Vorkuta, un chanteur. Il chantait son art, parce que c'en est un, est lié à cette histoire du théâtre au goulag, pas seulement au goulag ou dans les camps de Vorkuta, mais dans pas mal de camps à travers l'archipel du goulag, il y eut du théâtre. Alors, on a envie de lui poser 1000 questions à cet homme qui a 85 ans aujourd'hui et qui a une mémoire aussi précise et aussi distante, parce qu'il ne fait que décrire les choses de peur, peut-être, en les tenant à distance, qu'elle ne lui saute dessus et lui broie ce qui lui reste de cœur, c'est bien possible. Mais on sait aussi que Vorkuta a été un lieu historique à cause des dissidents qui y ont été détenus, notamment des dissidents trotskistes qui ont été massacrés dans les années 30 sur ordre de Beria. Et il y a une révolte fameuse aussi après la mort de Staline en 1953.
Yuri, pendant la période du goulag à Vorkuta, est-ce qu'il y a eu des soulèvements? Est-ce qu'il y a eu des détenus qui ont essayé de fuir?
Вот как-то бунты, вот.
Я уже освободился.
Moi, j'étais déjà
libéré. Громаднейшее.
Mais là, il y a une très grosse rébellion.
Ну и это.
Et ici, oui. Et puis d'autres.
А это вот восстание уже, когда я освободился.
Quand j'ai été libéré, et au mois de mai,
il
y a eu une énorme... C'était à la mine numéro
7.
La mine du Nord. Il y avait un OLP là aussi, un OLP, un camp.
29 OLP.
Notre camp s'est levé. La numéro 29 s'est levée. C'était une énorme rébellion.
На Ясиге только 4,5 тысячи. И там
Аячега aussi, il y avait 1000
детей. Аячега, да.
Аячега.
Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi cette rébellion?
Восстание это было, чтобы рассмотрели дела, ведь сколько освободили после восстания, чтобы рассмотрели дела, пересмотрели
по-настоящему. Вот причина. Équitable. Voilà, c'était ça la revendication.
Quel dossier?
Ну, за что они все были посажены?
Leur dossier judiciaire.
Ни за что.
Pourquoi ils avaient été mis en camp? Puisqu'ils avaient été mis en camp pour rien.
И вот они, поэтому мы восстали.
Et donc, ils se sont rebellés pour demander un réexamen de leur dossier.
Никакой реакции.
Mais il n'y a eu aucune réaction. Et alors, ils ont décidé d'entrer en rébellion puisqu'on n'examinait pas leur dossier.
Генерал же прилетал сюда. Его же дал команду.
Il y a un général qui est venu ici.
Стрелять-то по этим.
C'est lui qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les rebelles du camp numéro 29 de la mine 29, les insurgés. Il y avait des exécutions dans ces camps. Il y avait les détenus qui s'entretuaient, un détenu qui tuait un autre détenu.
Pourquoi?
Il
y avait beaucoup de raisons.
Особенно когда приходили этапы.
Surtout quand arrivaient de nouveaux convois.
С Магадана.
De Magadan.
Задание. Вот эти воры честные, которые не работают на начальство. Они, значит, давали этим людям задания и говорили.
C'était ce qu'on appelait les voleurs honnêtes, ceux qui étaient sous la coupe des chefs de camp, qui étaient envoyés ici dans un camp à Vorkuta, donc des pillards ou des voleurs des droits communs de Magadan, qui étaient envoyés ici dans les camps à Vorkuta.
Et les femmes?
L'OLP de femmes, il était séparé, le camp de femmes.
Отдельно. Женщины были отдельно в ОЛПах.
Les femmes étaient dans des camps à part.
И там вся и охрана женщин.
Et les gardes étaient des femmes.
Единственное, на вышках, те, которые охранники не касаются заключенным женщинам, те стояли только на вышках. На вышках.
Мужчины,
да.
Seuls les miradors étaient des hommes.
Armée. Et quel contact vous aviez avec les femmes? Alors comment vous faisiez pour rencontrer les femmes?
Non, никак.
C'était impossible.
Никак.
C'était impossible.
Единственное, что эти были случаи, когда подкупали в охру, а они отпускали их ночью за пределы лагеря.
Sauf si on arrivait à acheter un gardien et donc à pouvoir faire passer quelque chose à travers le camp.
Ça arrivait, ça.
Было, конечно.
Il y a eu des cas, bien sûr. В театре
был. Все это за мзду определенную.
Et ça, il fallait donner de l'argent pour ça.
Mais c'était très difficile. Alors comment on faisait pour l'amour, pour la sexualité? Ça veut dire qu'il y avait de l'homosexualité parmi les détenus?
Были,
oui.
Полно.
Oui, il y en avait plein.
Это есть такая песенка.
Petite chanson.
В 9 вечера. Делать нечего, по бульварчику прохожу, вижу дамочка, словно мамочка, я тогда же к ней подхожу. Берси талия и так далее, и глаза у ней, как алмаз, очень страстные, очень карие, сердце мальчика сейчас же пленят. Сговорились мы с этой дамочкой в ресторанчике побывать, а в ресторанчике прескурантики, веловодочки я подать. Из полрюмочки, с полбутылочки закружилась, брат, голова, закружилась, закачалась моя дамочка, как и я.
C'était le soir, j'ai vu sur le boulevard une dame qui ressemblait à ma mère, je me suis approchée, je lui ai proposé d'aller ensemble boire un verre, on est allé dans un petit resto. Le temps a passé, on a tourné, on a valsé. Et au petit matin, je me suis réveillée. Je n'ai pas compris où j'étais. Comme dans un miracle, comme dans les nuages. Mais tout à coup, j'ai réalisé. J'avais plus de manteau, j'avais plus de pantalon, j'avais plus de chemise, j'avais même plus de bottes. Et voilà cette dame, où était-elle passée? Elle qui ressemblait à ma mère. Elle avait les yeux noirs, elle avait les yeux sombres. Ochi chorni, ochi sguchi, c'est la chanson de Tzigane, les yeux noirs. Ochi chorni, ochi sguchi, voilà. Les yeux noirs, i prekrasni, kak lyublyu ya vas, kak boyusya ya vas, na tvoyi vas, ya mne. Cette romance, je l'ai enregistrée.
C'était un reportage avec Aude Merlin tourné en mai 2005 et dont nous retrouverons la suite demain. Merci à Yuri et Sacha. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Arnaud Chapat et Julien Dumont. Réalisation Koyen Guyen et Raphaël Mouterde. Assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
Waouh, elle est chouette ta nouvelle voiture.
Oui, merci.
Et t'as dû l'assurer tout risque, j'imagine.
Non, aucun risque.
Hein?
Bah oui, avec l'assurance auto de la MACSF, je ne prends aucun risque. Quoi qu'il m'arrive, la MACSF m'accompagne au quotidien. Crevaison, panne d'essence, elle trouve toujours la solution, même si je me trompe de carburant.
C'est ce qui s'appelle ne prendre aucun risque.
Oui, appelle la MACSF au 3233 ou va sur macsf.fr. C'est pour tous les professionnels de la santé.
3233, aucun risque de l'oublier.
MACSF.
Notre vocation,
c'est vous. Prix d'un appel local.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Oh, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour.
Futuroscope.
Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
Après le flash, ce sera le carrefour de l'Odéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Julie Gacon pour les informations.
Ou réaffecter le produit de la taxe que les banques doivent désormais payer sur les bonus des traders. Christine Lagarde a choisi, d'après elle, cet argent doit servir à soutenir les petites et moyennes entreprises. Elle veut donc entièrement l'affecter à la banque Oseo, établissement public chargé de faciliter le financement des PME. La ministre de l'économie vient de déposer un amendement dans ce sens dans le cadre de l'examen du collectif budgétaire. Il sera soumis ce soir au vote des députés. Racheter les logements vacants pour en faire des logements sociaux. Cette idée est ridicule et c'est le collectif Jeudi Noir qui emploie l'adjectif. Alors que le secrétaire d'État au logement Benoît Apparu a annoncé ce matin le rachat par l'État de 3000 appartements et bureaux vides en Ile-de-France, l'association rappelle que les collectivités peuvent déjà préempter au moment de la vente et que quoi qu'il en soit, rien ne peut forcer un propriétaire spéculateur à vendre. Jeudi Noir, tout comme le comité de suivi de la loi Dalo, demande l'application de la loi de réquisition. On nous fait passer pour des pilleurs. Nombreuses réactions indignées des pêcheurs de thon après l'annonce par Jean-Louis Borloo que le commerce de thon rouge serait interdit d'ici 18 mois. La pêche au thon en France, rappelle-t-il, c'est 1200 marins pêcheurs plus 3 entreprises par bateau. Ils se réuniront demain à Marseille pour décider d'un moyen de protestation et demandent à être reçus par Nicolas Sarkozy. Pas de suspension de séance pour l'instant. Le tribunal correctionnel de Pontoise a décidé de poursuivre les débats du procès de la catastrophe du Concorde à Gonesse en 2000. Il a rejeté la demande d'annulation présentée par la défense. Les avocats de la compagnie Continental Airlines demandaient la nullité de l'ordonnance de renvoi qu'ils jugent uniquement à charge. Le tribunal statuera sur ce sujet après avoir examiné le dossier. La Cour pénale internationale veut compromettre les élections et la paix au Soudan, c'est ce que croit savoir Khartoum après la décision de la CPI de réexaminer le cas Omar el-Béchir. En première instance, les juges avaient écarté les poursuites pour génocide contre le président soudanais. Finalement, ils vont se pencher une nouvelle fois sur la demande de mandat d'arrêt pour génocide. Cela concerne bien sûr la situation au Darfour. Élections une nouvelle fois reportées en Côte d'Ivoire. Les autorités n'ont pas finalisé, disent-elles, les listes électorales. Le président Laurent Gbagbo et la commission électorale sont en désaccord sur l'ivoirité de centaines de milliers d'électeurs. L'élection présidentielle était prévue à l'origine pour 2005. Alors que Haïti souffre toujours autant de la faim, de la soif et que des millions de personnes n'ont plus rien plus de 2 semaines après le séisme, la justice suisse fait des manières pour restituer à l'île une partie des avoirs datant de l'époque Duvalier. Ces fonds Duvalier détournés sous le couvert d'œuvres sociales juste avant la chute du dictateur en 86 représentent aujourd'hui en Suisse 5 millions d'euros. Mais le 12 janvier dernier, quelques heures avant le tremblement de terre, le tribunal fédéral invoque la prescription et s'oppose à la restitution de ces fonds. Aujourd'hui, la justice ne veut pas y revenir. Le gouvernement se dit très embarrassé et envisage un projet de loi pour rendre à Haïti ce qui lui appartient.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans la Drôme. Aujourd'hui à Perrin à 18h30 à la salle des fêtes et demain à Anneyron à la salle des fêtes également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter et le Théâtre des Gémeaux à Sceaux présentent du 3 au 21 février Macbeth de Shakespeare, mise en scène par Declan Donnellan. Avec sa troupe anglaise de Cheek by Jowl, Declan Donnellan apporte une dimension chorale et chorégraphique saisissante à cette vertigineuse histoire de transgression aux résonances universelles. Macbeth, à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter,
la différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon au carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose d'abord quelques auteurs peu connus, comme Florian Léopold Gassmann. C'était un bohémien, comme on disait, un tchèque, et puis il a vécu à Vienne, il est parti en Italie dans son jeune âge. Sa date de naissance 1729, il est passé à Bologne, il a rencontré le padre Martini, qui avait donné des conseils à Mozart, ça n'est pas rien. Et puis il est allé à Venise, où il s'est consacré avec un grand succès à la production théâtrale. Voici l'ouverture des Pêcheuses, avec un accent circonflexe. Elles ne commettent pas des péchés, mais elles vont chercher du poisson, un allegro de Gassmann. De l'ouverture des Pêcheuses de Florian Léopold Gassmann, interprété par l'Eclipse Chamber Orchestra, dirigé par Sylvia Alimena. Et voici Molter maintenant, Johann Melchior, ou Melchior, on peut dire en allemand, Molter, donc qui a vu le jour en 1696, soit 11 ans après Jean-Sébastien Bach, presque au même endroit d'ailleurs, près d'Eisenach. Et il a fréquenté le lycée du même lieu, il est le maître de pas mal de petites œuvres, il a été le compositeur peu connu mais très apprécié en son temps, qui était aimé par une certaine une aristocratie. Et puis, contrairement à Jean-Sébastien Bach, il est allé jusqu'en Italie, il s'est promené. Il a reçu une solide formation. Il a vécu assez longtemps quand même pour être un compositeur apprécié. Mais on l'avait oublié, le revoici. Allegro d'un concerto pour trompette en ré majeur. Vous allez entendre que la trompette n'est pas trop exploitée, hein, parce qu'elle joue assez peu. On n'avait pas encore la technique d'aujourd'hui en ce temps-là.